France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle politique d'aide au développement, avec quels moyens et surtout, pourquoi faire? On en parle ce soir sur France Inter alors qu'Emmanuel Macron vient de boucler sa première tournée en Afrique. Tournée qu'il a conduit au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, où il est allé inaugurer la plus grosse centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest, cofinancée par la France et l'Union européenne. Le chef de l'État a également annoncé lors de ce voyage la création d'un fonds d'1 milliard d'euros pour les PME en Afrique. Alors au-delà de ces annonces, on va voir où en est la France concernant sa politique d'aide au développement, quelles sont ses priorités. Et on se demandera si cette aide est vraiment nécessaire, car il y a débat sur ce point, y compris en Afrique, où certains estiment que c'est une façon pour l'ancienne puissance coloniale de garder la main sur certains pays. Pour aborder tous ces sujets et répondre à vos questions à vous, les auditeurs de France Inter, l'ancien ministre délégué au développement, Pascal Canfin, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui directeur général du WWF France. Pierre Jacquemot, qui est chercheur à l'IRIS, ancien ambassadeur de France au Ghana, au Kenya, en RDC, président du GRET, une organisation internationale de développement. Bonsoir à vous, monsieur Jacquemot. En direct de Nantes, l'économiste Felwine Sarr, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, auteur d'Afrotopia, chez Philippe Ray Éditeur. Bonsoir à vous, Felwine Sarr, vous m'entendez?
Bonsoir, oui, je vous entends.
Et que nos amis de France Bleu Loire-Océan soient chaleureusement remerciés pour cette liaison à distance. Et puis toujours avec nous dans ce studio, l'économiste Esther Duflo, auteure de Repenser la pauvreté au point seuil. Rebonsoir Esther Duflo.
Bonsoir.
Pour nous joindre, le numéro c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Francisco, qui visiblement connaît bien le sujet. Bonsoir à vous, Francisco.
Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
On vous écoute, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Parfait, très bien. Eh bien, voilà, ma question, elle est simple, c'est à quand une Afrique africaine avec des vraies valeurs africaines? Je m'explique. Depuis 35 ans, je travaille en Afrique avec des organisations humanitaires et des organismes internationaux. J'estime que, enfin, mon constat, c'est que la colonisation française et anglo-saxonne également ont cassé un processus naturel d'évolution de l'Afrique, des Africains, que le retrait de la colonisation n'a pas été accompagné des mesures adéquates pour permettre aux Africains d'être vraiment des Africains. Aujourd'hui, ce qu'on perçoit quand on est en Afrique, c'est des copier-coller de notre modèle qui, à travers une mauvaise compréhension des enjeux culturels, politiques, financiers, économiques, changement climatique, etc., empêche les individus d'être eux-mêmes. Et aujourd'hui, les milliards qui ont été dépensés en Afrique, si on souhaitait réellement en mesurer l'impact au niveau des populations, au niveau des États, on pourrait considérer que cet argent a été jeté par les fenêtres. Si vous me permettez,
oui, Francisco.
Encore deux secondes, parce que je ne veux pas monopoliser le temps ni l'antenne. Il y a des choses très, très, très pratiques et pragmatiques à faire dès maintenant. Il faut donner à manger aux gens qui ont faim, il faut donner à boire aux gens qui ont soif, il faut permettre l'instruction des gens qui ont nécessité d'instruction, en remettant en cause, si on est honnête jusqu'au bout, la forme du son A elle-même, c'est-à-dire ne pas apprendre le français ou l'anglais comme langue de travail ou des administrations, mais de refonder une vraie culture africaine.
Merci voilà. Francisco, merci beaucoup pour cette longue remarque. Avec une question, et je voudrais préciser qu'on va prendre aussi Marc, qui va dans le même sens que vous, il nous appelle lui du Nord, et puis ensuite on vous répondra à tous les deux. Bonsoir Marc.
Bonsoir Claire Servageant et merci pour la qualité de votre émission. Bonsoir à tous. J'avais annoncé une question volontairement provocatrice, mais je suis 100% d'accord avec Francisco. Qui sommes-nous pour prétendre aider d'autres pays et d'autres peuples à se développer? Au XIXe siècle, la Troisième République a prétendu aller civiliser les peuples d'Afrique et d'Indochine. On a vu le résultat. Alors, est-ce que le développement de l'Afrique, c'est quand Coca-Cola, Orange ou le glyphosate arrivent au fin fond du Sahel? Ils y sont déjà. N'est-ce pas plutôt quand les gens sont debout et prennent eux-mêmes en charge leur destin? Et pour les aider, pour ne pas les exploiter, est-ce que nous n'avons pas d'abord à construire chez nous une société plus démocratique il y a du travail, plus juste et plus égalitaire.
Ah ben, il y a plein de questions là. Merci Marc, en tout cas, pour cette entrée en matière. Merci aussi à Francisco. Qui veut lui répondre, leur répondre pour commencer? Peut-être Pierre Jacquemot.
Ben écoutez, je veux bien essayer.
Il y a de la matière. Hein.
Je pense qu'il ne faut pas faire un jeu aux Africains en disant qu'ils ne se sont pas pris en charge depuis les indépendances. Je remarque le temps de l'indépendance, c'est pratiquement le temps de la colonisation, près de 60 ans. Et partout, j'observe que les Africains se prennent en charge. D'ailleurs, le discours d'Emmanuel Macron au début de cette semaine à Ouagadougou portait précisément sur cette responsabilité. Alors, il peut y avoir ici ou là un certain nombre de séquelles, bien évidemment, de la colonisation. Là, on cite la langue. Ceci étant, là aussi, la langue française, en tout cas, peut être appropriée. Elle a été appropriée par d'abord de nombreux auteurs, de nombreux artistes. Et cette appropriation est un peu une revanche sur la colonisation. Et c'est aussi un instrument d'unité africaine. Comme peut l'être l'arabe, comme peut l'être le swahili, comme peut l'être l'anglais ou le portugais, selon les régions. Donc voilà, je ne souscris pas à ce procès qui est fait sur la présence de la France en Afrique, parce que je ne retrouve pas ça dans ma propre expérience.
Pascal Canfin, qui sommes-nous
Je pense qu'il y a deux remarques qui ont été faites là, dans les interventions des deux auditeurs pardon, que je salue. Une première remarque qui serait effectivement d'ordre général en disant l'aide publique au développement ne serait pas légitime parce qu'elle viendrait des anciennes puissances coloniales. Je pense qu'on peut pas à la fois reprocher à la France de pas honorer les objectifs, les engagements qu'elle a pris, à savoir consacrer 0,7% de son produit intérieur brut à l'aide au développement, et en même temps lui reprocher d'en faire quand même. Par contre, ce qui est certain, évidemment les auditeurs ont raison sur deux points, c'est un, l'aide publique au développement ne suffit pas, c'est évident, c'est dans un contexte où on aurait des règles, et on a des règles commerciales qui permettent à certains de nos produits d'empêcher de la production locale, par exemple en matière agricole, ou des règles fiscales qui font qu'une grande partie de la richesse est capturée et repart dans les paradis fiscaux, dans l'exploitation minière, pétrolière ou gazière, et donc prive les États du Sud, notamment africains, de ressources parfaitement légitimes. Ben évidemment, quand on a des règles aussi injustes au niveau international, c'est pas le petit curseur de l'aide au développement, aussi élevé puisse-t-elle être, qui va remettre de la justice dans ces règles. Donc là, ils ont raison, mais en même temps, l'aide au développement reste néanmoins nécessaire dans un contexte où il faudrait changer les règles antérieures sur les paradis fiscaux, les règles commerciales par exemple, parce que à minima, c'est mieux que rien. À minima, c'est mieux que rien.
Alors, on va partir à Nantes retrouver Felwine Sarr, qui est en direct avec nous, parce que vous êtes sénégalais et vous avez signé une tribune avec Achille Bembe qui a été très remarquée. Là, africain, il n'y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes. Alors j'imagine que vous n'allez pas forcément avoir la même réponse que nos amis qui sont ici.
Non, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord la notion d'identité est une notion dynamique. Donc les Africains sont le produit de leurs héritages multiples, donc leur culture négro-africaine, l'islam et la colonisation française. Et je pense que les gens assument cette synthèse-là. Et être africain, ce n'est pas retourner dans une Afrique mythique ou une sorte de pureté identitaire. Être africain, c'est être sujet de son histoire et s'assumer avec ses héritages. Donc c'est peut-être ça que j'aurais à dire. Donc quand est-ce que les Africains redeviendront africains? Ils sont africains. La question, ce n'est pas ça pour moi. La question, c'est quand est-ce que redeviendront-ils pleinement sujet de leur histoire? Et quand est-ce que deviendront-ils les moteurs principaux de leur destinée? Et c'est peut-être là où ils ont raison. Et moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tant de pointer un doigt accusateur, c'est d'abord de savoir comment je peux sortir d'une relation qui m'est défavorable, qui est asymétrique, et qui ne me remet pas au centre de ma propre dynamique. Et de ce point de vue-là, je pense comme Pascal Canfin que l'aide est dérisoire et que ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment on opère des révolutions internes pour mieux gérer nos ressources, nos États, notre espace public, et comment on fait en sorte pour rééquilibrer les rapports économiques globaux. Comment est-ce que le commerce international nous est moins défavorable? Comment faire en sorte pour éviter les flux financiers illicites, etc. etc.
Voilà. Merci Felwine Sarr. Esther Duflo, est-ce qu'on est légitime
Je pense qu'il est utile de rappeler un nombre pour l'aide, ce que représente l'aide aux pays africains, parce que peut-être les auditeurs ne se rendent pas compte de quoi on parle. On parle de 43 dollars par personne et par an en Afrique. Et c'est un des continents où l'aide extérieure est la plus importante, mais le continent où l'aide extérieure est la plus importante, c'est l'Océanie, avec à peu près 190 dollars par personne et par an. Et ensuite, c'est l'Europe, avant l'Afrique. Donc quand on parle de 43 dollars d'aide extérieure, c'est clair que l'aide ne peut ni être la cause de tous les problèmes de l'Afrique, ni être l'espoir de régler tous les problèmes de l'Afrique. C'est tout petit. Et je crois que les auditeurs ont absolument raison quand ils disent que les pays africains, et les pays, tous les pays en général, pas seulement les pays africains, doivent trouver leur propre voie. C'est clair que l'aide ne va pas ni les en empêcher, ni accélérer très très fortement ce processus. Mais le rôle le plus positif auquel on peut penser par l'aide, on peut penser pour l'aide, c'est dans quelle mesure l'aide extérieure peut aider les pays africains à trouver leur propre voie, c'est-à-dire à faire la politique qu'eux, ils voudraient faire, mais encore mieux. Mmh. Et de cette manière, on peut à la fois vouloir respecter les engagements de 0,7% et vouloir un petit peu un changement de ce qu'est l'aide. Je crois que tant que l'aide sera un substitut pour ce que les budgets pourraient faire eux-mêmes de toute façon, elle sera quantitativement pas très importante et mal ressentie, parce que souvent ça s'accompagne de « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça », etc. À juste titre, mal ressentie. Mais si on utilisait l'aide en se disant « c'est un tout petit peu, c'est pas tellement d'argent », mais c'est quand même de l'argent qui, pour les pays africains, a l'avantage d'être flexible, de pouvoir, de pouvoir supporter le risque plus rapidement. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'aide soit utilisée comme du capital risque pour inventer les politiques de demain. Et les politiques de demain, elles ne vont pas être inventées par les gens de l'aide, mais par les gouvernements eux-mêmes, ou les acteurs d'ailleurs de la société civile, ONG, etc. Mais en prenant l'argent de l'aide pour faire leurs expériences.
Alors justement, il y a Richard qui nous appelle de Paris et qui va dans votre sens, Esther Duflo. Ensuite, je passe la parole à Pascal Canfin. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir. Merci
on
de
vous
prendre
écoute.
Mon appel. Voilà, je voulais vous dire, parce que ça fait près de 35 ans que je fais du développement, je suis passé par tous les organismes internationaux divers et variés, donc je connais un tout petit peu depuis l'Afrique jusqu'au Pacifique, en passant même par la Russie, voir comment on développe un pays. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est d'abord que notre problème, mon problème cardinal pendant des années, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était débourser, dépenser l'argent. C'est pas, si déjà on pouvait dépenser tout l'argent qui se déverse sur un certain nombre de pays, on pourrait faire des choses spectaculaires. Bon, donc disbursement. Comme disait Madame Duflo, évidemment, il y a un certain nombre de contraintes. Vous pouvez débourser, on vous demande de le faire à peu près sérieusement. Bon, deuxièmement, et c'est pas une question, je mets pas d'idéologie là-dedans. Il y a un problème, j'ai constaté à titre personnel. Alors l'Afrique est un cas très particulier, mais j'y viens. Il y a un problème qui vient de se poser depuis les 30 dernières années, c'est que j'ai constaté que mon travail avec l'aide publique a été infiniment moins efficace pour sortir les gens de la misère que le travail privé. Le privé, on peut le critiquer, il y a des tas de critiques qui puissent être faites, aussi bien sur les histoires de textile, les histoires d'exploitation des gens, etc. Il demeure qu'en particulier en Asie, on a réussi à multiplier un pays comme la Chine ou même le Vietnam par 7 le revenu moyen dans le pays. Donc voilà, je pense que ça c'est la question, et je pense que il faut pas, et je pense que l'Afrique aujourd'hui est en train de vivre une véritable révolution, malheureusement essentiellement en Afrique de l'Est, dans laquelle les industries commencent à se développer de manière massive. Malheureusement, c'est fait par qui ? C'est fait par les Chinois maintenant, c'est fait par l'Asie.
Richard, merci mille fois d'avoir appelé. On va peut-être laisser nos invités vous répondre. Qui veut commencer ? Pascal Canfin.
Je ne sais pas si je vais répondre directement, mais en revanche, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot responsabilité. Il y a effectivement des aspects sur lesquels on peut considérer qu'aujourd'hui l'essentiel devrait être, par exemple, j'évoquais la question des paradis fiscaux, de changer ces règles-là pour justement faire en sorte que les pays du Sud n'aient pas besoin d'aide. La finalité de l'aide, c'est de ne plus en avoir besoin. Et donc, si on était capable de changer ces règles-là, et elles changent un tout petit peu, mais on a vu récemment avec les Paradise Papers qu'on avait encore du chemin à faire, malheureusement, eh bien, ce serait des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui pourraient aller au budget de santé, au budget d'éducation, aux infrastructures des pays qui en manquent. Et si, avec cet argent, les gouvernements locaux ne faisaient pas les bons choix pour des questions de gouvernance, appelons ça de corruption, puisqu'on sait que ça existe, ah ben à ce moment-là, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité des sociétés civiles de se révolter, de s'indigner contre ces pratiques qui, on le sait, existent trop souvent. Mais il y a aussi un deuxième sens du mot responsabilité. Je voudrais parler du dérèglement climatique. Quand on est au Sénégal, et qu'on a la mer qui monte, l'érosion des côtes, et qu'on est sénégalais, et qu'on a perdu sa maison, personne ne va financer le fait que cette personne va retrouver une autre maison. Donc si là, l'aide publique n'est pas là pour apporter des fonds, eh bien personne ne le fera, ni l'État, ni les assurances privées, etc. Et donc là, on a clairement une part de responsabilité morale, éthique, que l'on doit honorer.
Pierre Jacquemot, est-ce que vous voulez bien répondre aussi à Richard qui nous disait le problème, c'est comment on dépense aussi?
Oui. Bon, d'abord, on ne peut être que d'accord avec ce que dit l'ancien ministre, à savoir qu'il faut un environnement favorable et qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas toujours réunies pour pouvoir avoir une aide efficace, bien évidemment. C'est le contexte notamment international, commercial, financier, etc. Mais si on parle de l'aide à proprement parler, il y a trois choses à dire pour répondre à notre auditeur. La première, c'est la question de la méthode. On en appelle à davantage de proximité, davantage de flexibilité, davantage d'efficacité. On parle d'une culture d'évaluation. Et cette démarche est incarnée par un certain nombre d'acteurs. Je plaide pour ma chapelle, je préside un consortium d'ONG françaises, 1600 personnes. Je tiens à signaler que les acteurs sont essentiellement des acteurs du Sud dans ces... Parmi les salariés, les 1600 salariés,
Grette.
Près des 80% sont cambodgiens, sénégalais ou haïtiens. Donc il y a des modalités de l'aide qui ont profondément changé. Et l'aide française permet d'appuyer en direct un certain nombre d'acteurs du Sud qui sont en proximité, du moins celles qui transitent, cette aide qui transite par ce type d'organisation. Et puis, enfin, il y a la question de la cible. Qu'est-ce qu'on fait avec cette aide? On a peut-être fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas pertinentes, mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe davantage, et je regrette un peu que ça n'ait pas été davantage signalé par le président de la République, on s'occupe d'agriculture paysanne, celle qui ne rentrera pas dans le circuit privé qui est évoqué par un des auditeurs. On s'occupe d'accès à l'eau dans les quartiers précaires, on s'occupe d'assainissement, on s'occupe de lutte contre le changement climatique dans une série de territoires. Donc il y a malgré tout, même si on vante les mérites de l'entrepreneuriat un peu partout comme étant une solution un peu miracle, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité, un certain nombre de pauvres, et c'est quand même la grande majorité des populations du Sud qui sont exclus en quelque sorte des mécanismes de marché et qu'il faut bien aider au travers des mécanismes pertinents de proximité avec des acteurs qui sont les acteurs du Sud que nous appuyons.
On va tout de suite à Nantes parce que Felwine Sarr souhaite intervenir, peut-être réagir aux questions qu'ont posé les auditeurs.
Oui, en fait, peut-être deux choses à dire. La première, c'est que j'adhère assez avec l'idée que le secteur privé, lorsqu'il est dynamique et qu'il fait bien son travail, contribue à créer de l'emploi, à élever le niveau de revenu par habitant et probablement est plus efficace que l'aide. L'aide, tout dépend de quelle aide. On sait qu'il y a de l'aide budgétaire, qu'il y a de l'aide de projet, qu'il y a un type d'aide qui est adossé à des conditionnalités qui posent d'énormes difficultés et de contraintes. Il y a toute une littérature sur la capacité d'absorption, etc. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas là la question, en fait, et que en insistant sur l'aide, on fait comme si, en fait, c'était la principale dynamique. Ce n'est pas la dynamique la plus fondamentale. La dynamique la plus fondamentale, c'est des rapports économiques équitables qui ne nous privent pas des ressources nécessaires pour investir dans le capital humain, dans l'éducation et dans la santé, pour mettre en place, justement, des politiques économiques adéquates et pour faire en sorte que l'essentiel des ressources de nos sous-sols bénéficie d'abord à nos sociétés. Bien évidemment, il faut qu'elles soient bien gérées. Bien évidemment, il faut que l'on soit intraitable avec les problèmes de mauvaise gestion, de corruption. Et nos sociétés civiles doivent être au premier rang pour veiller à ce que les ressources se soient bien utilisées par nos gouvernants. Mais fondamentalement, c'est une question de rapport économique global d'abord.
Voilà, et la bonne nouvelle, ce sera le jour où il n'y en aura plus besoin. Voilà, c'est surtout ça, oui, c'est ce que disait Pascal Canfin.
Oui, en fait, c'est ça la question la plus importante pour moi. Donc, ce n'est pas la question de l'aide au fond. Et en plus, les transferts de fonds des migrants sont beaucoup plus importants pour un certain nombre de nos pays que l'aide publique au développement. Ils jouent le rôle d'atténuateur de choc. Et lorsqu'on met le curseur sur cette question-là, j'ai l'impression qu'on masque les principales dynamiques qui sont économiques, mais qui sont sociopolitiques, géopolitiques et globales.
Merci, Falouine Sarr. Esther Duflo.
Oui, juste une précision. L'auditeur met en opposition l'aide avec le secteur privé. Mais il ne faut pas oublier le secteur public aussi. La grande majorité des biens publics des pays en développement sont financés, exécutés, implémentés par les pays en développement eux-mêmes. Donc le gouvernement est aussi en charge de gérer les biens publics et le fait plus ou moins bien, mais essentiellement avec leurs propres ressources. Il ne faut pas s'exagérer le rôle de l'aide en la mettant en opposition en disant il y a l'aide et le secteur privé. C'est pas vrai.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Éric est dans le Var et il nous appelle. Bonsoir Éric.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Ce qui m'a incité à téléphoner, c'est l'intitulé de votre émission, et on vient d'en parler, l'aide de la France à l'Afrique. Moi, j'ai plutôt l'impression que depuis la décolonisation, c'est un pillage organisé par les multinationales, ça a été évoqué, mais je veux dire, on donne une aide, j'ai souvent l'impression que l'aide elle est accordée aux gouvernants sous une forme plus ou moins déguisée de corruption pour s'assurer les marchés qui sont ensuite dans les mains des multinationales. Je ne connais pas de multinationales africaines qui soient indépendantes et qui arrivent à faire profiter les pays des richesses des sous-sols notamment.
Alors il y a Esther Duflo qui a très envie de vous répondre, Éric.
Bon, je pense que c'est au ministre de répondre à cette question. Oui, il faut quand même pas exagérer. Je pense que c'est important de parler de corruption. Il y en a, c'est clair. Mais enfin, de dire que toute l'aide est sous la forme de corruption, il faut quand même pas en rajouter. Vous prenez par exemple PEPFAR, l'aide qui a été, puisqu'on était la journée du sida aujourd'hui. Quand on regarde même simplement les courbes des morts du sida, avant et après PEPFAR, elles changent de direction. Le fait qu'il y ait eu une coordination internationale sur les antirétroviraux, sur la détection, et que cet effort, qu'il y a eu un énorme effort dans les pays africains et dans d'autres pays où le sida est important, ça a eu un effet positif. Donc c'est pas toujours le cas que toute l'aide est simplement des cadeaux aux gouvernants.
Il faut essayer de faire attention aux trop grandes généralités qui font qu'on perd de vue la complexité de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que l'aide peut être fantastique. C'était vrai, par exemple, sur les fonds mondiaux sur le sida qui ont permis réellement un changement d'échelle de la lutte. Et sans cet argent, rien ne se serait fait. Et on avait d'un côté, c'était la fameuse phrase de Jacques Chirac, hein, les malades sont au sud, les médicaments sont au nord. Bon, ben, on a réellement changé ça, réellement. Ça a pris 20 ans, mais ça s'est fait. Donc l'aide, ça peut marcher. Mais c'est vrai, l'aide, ça ne marche pas toujours. Et surtout, dans la durée, ce qui est profondément transformationnel et qui fait qu'un pays va décoller, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas de l'aide au développement. Ce sont les budgets publics, c'est la bonne gouvernance, ce sont la capacité à avoir s'insérer dans la mondialisation, etc. Et tout ça, ce n'est pas directement de l'aide au développement. Elle peut y contribuer et parfois, ponctuellement, elle peut desservir. Et donc, je pense qu'il faut ni la diaboliser, ni en faire l'alpha et l'oméga. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle peut être, un effet levier sur autre chose. Et il y a quand même des success stories. Il ne faudrait pas laisser penser que tous les pays africains, dans leur grande diversité, parce que un des points que moi j'ai apprécié dans le discours d'Emmanuel Macron, qui était aussi d'ailleurs celui de François Hollande auparavant, c'était de dire il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas un continent qui serait avec 55 pays tous identiques et il y aurait un pays, la France, en face d'un continent, l'Afrique. Non, il y a des dizaines de pays et effectivement la France parle plutôt, pour des raisons historiques évidentes, à une Afrique francophone. Mais l'Afrique est évidemment diverse. Et par ailleurs, je rejoins le tout début de la réponse de l'auditeur, l'aide de l'Afrique ou des pays africains à la France est énorme aussi. Et je pense qu'il faut, et il faut pas opposer l'un et l'autre. On est juste dans un monde interdépendant où parfois on fait des choses bien, parfois on fait des choses pas bien. Et il faut aussi reconnaître que nous sommes très largement aidés, on l'a été dans l'histoire, par des flux, des ressources, des capitaux, des hommes et des femmes qui venaient du continent africain.
Pierre Jacquemot, vous partagez ce point de vue ?
Non, je suis surtout agacé par cette association un peu systématique qui est faite entre l'Afrique et la corruption. La corruption, c'est pas un phénomène africain, c'est un phénomène international qu'on rencontre dans d'autres sociétés. Il y a un peu cette fâcheuse manie à évoquer la prévarication, la mauvaise gestion des données publiques dès lors qu'on parle d'un gouvernement africain. C'est assez insupportable.
Mais c'est une question qui revient souvent. Et là,
oui,
sur Internet aussi, les auditeurs nous posent cette question.
Tout à fait. Alors, je pense qu'il faudrait l'attaquer de front, mais moi, je pourrais désigner des sociétés asiatiques qui sont au moins aussi corrompues, où le modèle de corruption est d'ailleurs peut-être le modèle dominant.
Les États-Unis d'aujourd'hui, par exemple.
Et puis, il y a un certain nombre. Alors, et d'associer ça systématiquement avec l'aide, c'est un peu gênant parce que ça voudrait dire que on est aveugle devant un certain nombre de dérèglements. Bon. De la même manière, je m'insurge un peu sur le procès qui est fait, si c'est fait en tout cas à l'encontre des entreprises françaises. Alors, je pense chargé de les défendre, loin de là, c'est pas mon secteur d'activité, mais j'observe que les dispositifs d'aide, en tout cas français, ceux de l'Agence française de développement ou de sa filiale Proparco qui vient en appui aux entreprises françaises, ont des critères de responsabilité sociétale et environnementale qui sont stricts. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données publiques. Alors, et puis des critères de redevabilité, c'est-à-dire d'évaluation auprès du Parlement, etc., qui ont pour but de maximiser en quelque sorte l'impact de l'aide. Alors, c'est pas toujours très facile. On a parlé de capacité d'absorption tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a des contextes. D'ailleurs, si c'était facile, on n'aurait pas besoin d'aide. On serait dans des pays qui pourraient tout à fait s'affranchir de ce type d'assistance. Mais je crois qu'il faut faire attention à éviter des amalgames un peu trop rapides dès lors qu'on parle de l'Afrique.
Alors, on part à Nantes retrouver Fel Winsar. Vous entendiez ce que disait notre ami, je ne sais plus si c'était Richard tout à l'heure, qui parlait de pillage. Est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ça?
Non, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, j'adhère à toutes les trois réponses qui ont été fournies. Donc, l'amalgame trop facile entre corruption et Afrique, la diversité des situations et des contextes. Et je pense que l'un des invités a bien dit que les flux sont dans les deux sens et que nous sommes dans un monde interdépendant. Mais ce que j'aimerais peut-être pointer dans cette interdépendance-là, c'est qu'elle est à géométrie variable. Certains sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Et peut-être pour moi, la question la plus importante, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'autonomie et de l'espace d'action? Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que sur un certain nombre de choix stratégiques, on puisse inventer des chemins qui sont les nôtres et qui nous semblent les mieux appropriés? Et il n'est pas question de remettre en cause l'interdépendance globale, c'est un fait. Mais à l'intérieur de cette interdépendance-là, quels sont les moyens dont on dispose et comment on fait pour en avoir de plus en plus et comment on met ça en place? Oui, je pense aussi que les multinationales, elles ont des relations qui sont profondément asymétriques vis-à-vis de nos espaces et de nos territoires. Je veux dire, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps sur les flux financiers illicites. Ils étaient beaucoup plus importants que l'aide publique au développement. On les a comparés à l'idée, je pense qu'ils étaient équivalents. Et la question qui se pose, c'est comment on met en place des mécanismes pour retenir des ressources fiscales sur le continent pour faire en sorte que nos États aient des moyens pour mener des politiques publiques adéquates. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des questions principales, fondamentales, majeures. Il y a des questions qui sont mineures. Et souvent, on insiste sur des variables à impact minimal, alors que les variables qui ont un impact beaucoup plus important, je veux dire, on passe un peu à côté ou bien on les évoque très furtivement. Pour moi, c'est ça la question.
Merci, Fel Winsar. On repart au standard. C'est Agnès qui nous appelle de l'Essonne, qui a une question sur le franc CFA. Voilà. Bonsoir, Agnès.
Oui, bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Écoutez, ma question est extrêmement simple. Quid du franc CFA? Que faut-il en penser? Je crois savoir que le président Macron a été interpellé à ce sujet par l'un des étudiants devant qui il intervenait. Je ne sais pas ce que M. Macron a répondu. Donc voilà, que faut-il penser du franc CFA, de ce lien monétaire, sachant que l'argent est le nerf de la guerre. Voilà, est-ce que le franc CFA est un cadre monétaire favorable au développement des économies concernées, ou est-ce que c'est plus un fil à la patte et une manière pour la France, le trésor français, de garder un peu... Enfin bref, voilà.
Donc, excellente question Agnès, merci beaucoup de nous avoir appelé. Pierre Jacquemot, le franc CFA, il a un peu botté en touche Emmanuel Macron.
Non, pas vraiment. Je ne suis pas d'accord. Bon, d'abord, c'est un sujet complexe. Hein. Je pense que si on rentre dans les considérations techniques, on en a pour un moment. Comme c'est un sujet complexe, il y a des vérités et des contre-vérités qui sont évoquées dans les différents arguments. Et peut-être on peut en rester à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit c'est une affaire africaine. Bon, c'est pas nouveau, hein, d'autres.
Mais est-ce que c'est vraiment qu'une affaire africaine?
C'est fondamentalement une affaire africaine parce que alors il y a beaucoup de cristallisation sur les sujets disons symboliques et qui pourraient trouver un traitement assez facile. D'ailleurs, Emmanuel Macron a laissé entendre que si on voulait changer de dénomination, ça posait pas de problème, c'est avec le mot franc. Même si d'autres pays ont encore un franc, et tous n'ont pas eu de relation avec la France, je pense au franc congolais, mais les Kenyans ont encore le shilling, et puis l'Afrique du Sud a encore le rand de l'apartheid. Donc bon, enfin, on peut changer, on peut fabriquer les billets de banque en Afrique, on peut déplacer le compte d'opération qui est au Trésor français dans les banques centrales africaines, ou à la banque... à la Banque des règlements internationaux, on peut trouver toutes sortes de formules. Et ça, ça me paraît peut-être probablement assez nécessaire, étant entendu que c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est d'avoir une politique de souveraineté monétaire qui soit efficace pour financer les économies africaines qui en ont grandement besoin. C'est ça le véritable sujet. C'est pas un sujet de polémique, c'est d'abord un sujet politique et un sujet technique. Et Emmanuel Macron a dit c'est d'abord une question africaine et les Africains peuvent opérer les évolutions qu'ils souhaitent et éventuellement même élargir les bénéficiaires de la zone.
On va poser la question à Felwyn Sarr. Est-ce que c'est une question africaine, purement africaine, le franc CFA?
Deux choses. Je pense qu'il y a effectivement une dimension symbolique, une dimension symbolique et une dimension technique, et que les deux problématiques qui se posent ne sont pas les mêmes, et des fois on les confond. Et je pense aussi que sur le plan symbolique, on peut apporter des réponses rapides, rapatrier le compte d'opération. La dénomination franc, elle ne me gêne pas du tout. Et fabriquer les billets de banque, voilà, sur le continent, si on trouve des solutions qui sont moins onéreuses. Mais je pense que le fond de la question, c'est de retrouver un instrument de politique monétaire efficace. Et ça, c'est une question technique. Et je pense que ce qu'on reproche à ce franc CFA là, c'est de ne pas être assez flexible. Je veux dire, on a fait des simulations, on trouve qu'un régime intermédiaire serait préférable que les deux régimes en coin, un currency board, donc un panier de monnaie, un régime flottant qui lui permettrait au prorata des économies avec lesquelles nous sommes en échange une marge de fluctuation et redonner à la politique monétaire une capacité proactive qui permettrait de mieux financer les économies, ne pas avoir un franc CFA qui est fort puisqu'il est adossé à l'euro alors qu'il ne reflète pas les fondamentaux de nos économies. Ça, ce sont des questions techniques sur lesquelles les économistes ouest-africains ont énormément travaillé et proposent des solutions. Je veux dire, même l'horizon de la monnaie unique CDAO, bien qu'elle pose des problèmes avec le Nigeria, mais il y a un travail technique qui est là et qui devrait être pris en compte. Et je pense que ça, c'est deux aspects qui doivent être concomitamment pris en compte. La monnaie a une dimension politique et symbolique. C'est normal qu'elle cristallise puisqu'on a l'impression qu'elle est encore le signe d'un pacte colonial et qu'elle emporte les stigmates. Et je pense que cela, il serait intelligent d'y répondre rapidement et de se concentrer, pour moi, ce qui est le plus important, quel type d'instrument monétaire, quel type de politique monétaire pour une croissance et une croissance inclusive. Et ça, je pense qu'on a les réponses. Et pour ça, c'est important de se réapproprier la possibilité de gérer donc la variable monétaire au mieux des défis de nos économies.
Merci Felwyn Sarr. Je vous presse un petit peu parce qu'il est déjà pratiquement 54 et j'aimerais bien qu'on prenne Bruno en ligne qui a une question pour vous, Esther Duflo, paraît-il. Bonsoir Bruno.
Bonsoir à tous et en particulier à Esther dont je fus le camarade de classe il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui,
il faut pas de classe ce soir.
Aujourd'hui, je dirige l'activité africaine d'un groupe énergétique investi sur l'électrification en Afrique et j'aimerais avoir l'opinion de vos invités, en particulier d'Esther, sur les enjeux sociaux de l'électrification, savoir si des études empiriques sont menées sur le sujet et ce qu'elles disent, Et enfin, connaître l'opinion de vos invités sur les solutions, puisque l'aide au développement peut aider, mais je crois que tous conviennent qu'elle ne suffira pas, sachant que 600 millions d'Africains, un sur deux, ne disposent pas aujourd'hui d'une énergie moderne.
Merci beaucoup Bruno pour cette question essentielle. Esther Duflo, c'est vrai que vivre sans électricité, ce n'est pas facile.
Alors il y a des études sur l'impact de l'électrification sur la vie des gens, en particulier regardant des moments où des pays, par exemple, il y a des études sur le Brésil, il y a des études sur l'Afrique du Sud, ont progressivement étendu l'électrification. Et ça permet de regarder comment la vie des gens change quand l'électricité arrive chez eux. Et un des résultats intéressants, c'est qu'on trouve par exemple que les femmes se mettent à travailler plus à l'extérieur de leur maison, parce que l'électrification libère du temps, rend la journée plus longue, ce qui permet aussi de répartir les tâches différemment.
Je crois qu'on se rend plus compte dans nos sociétés ce que ça peut vouloir dire de vivre sans électricité, hein, tout simplement.
Donc il y a des pays, aujourd'hui par exemple le Kenya, qui fait d'énormes efforts pour étendre la grille, à la fois avec des solutions traditionnelles, y compris en fait au Kenya, beaucoup d'énergie renouvelable et des solutions moins traditionnelles, c'est-à-dire solaire, etc., off-grid. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui est la manière la plus efficace de le faire. Est-ce que c'est suffisamment peu cher pour que les gens puissent s'offrir l'électricité si on arrive à étendre la grille ou pas? Il y a beaucoup de travaux qui ont lieu à ce sujet en ce moment.
Pascal Canfin, ensuite Pierre Jacquemot, et on part à Nantes, et vous avez chacun une minute, pas plus.
D'accord, juste un chiffre. Il y a plus de consommation d'électricité à Manhattan que sur tout le continent africain. Ça donne une idée de l'inégalité du monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on peut en parler de l'aide au développement autour de cette table, et elle doit être améliorée, mais elle est absolument indispensable. Et il y a un autre phénomène qui va peut-être écraser tous les gains qui ont été faits depuis des années, parce que il faudrait pas laisser penser qu'aucun progrès n'a été réalisé, même s'il reste énormément de chemin à faire. Il y a plus d'enfants qui ont accès à l'éducation aujourd'hui, moins d'enfants qui n'ont pas accès aux hôpitaux, aux médicaments, etc. Et c'est formidable. En revanche, il y a un phénomène, et j'y reviens, c'est le dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce que la Banque mondiale a démontré qu'un monde à 4 degrés de réchauffement, et en Afrique, ça va encore plus vite qu'en moyenne mondiale, va effacer tous les gains de développement. Parce qu'il y aura plus de tempêtes, moins de rendement agricole, plus d'infrastructures qui vont être abîmées, donc moins d'accès aux infrastructures de santé, les écoles qui vont être détruites, et donc plus d'accès à l'école. Ça va être un monde où on va régresser en matière de développement. C'est pour ça que c'est absolument décisif de lutter aussi contre le dérèglement climatique.
Évidemment, c'était essentiel de le rappeler. Fel Winsar, vous avez 30 secondes, 45 secondes pour le mot de la fin, ce qui vous paraît à vous aussi essentiel, la priorité des priorités.
Non, là, je dirais que là, on a touché à une question structurelle qui me semble fondamentale, donc la question de l'énergie. Et c'est un défi qu'il faut relever. Mais ce que je trouve important, c'est de replacer notre débat dans une perspective beaucoup plus globale. Donc les questions de dérèglement climatique qui viennent d'être évoquées, donc m'amène à cette idée comment pouvons-nous avoir une conscience élargie de problématiques globales, et comment pouvons-nous agir loin d'une vision étriquée de ce que seraient des intérêts nationaux. Et ça aussi, je pense que c'est un travail au niveau géopolitique sur lequel tous les acteurs doivent mettre leur effort, parce qu'à la fin de la journée, ce sera ça qui déterminera un changement ou pas. Dans quelle mesure sommes-nous en mesure d'avoir une conscience globale des problématiques?
Pierre Jacquemot, vous aussi, vous avez 30 secondes.
Oui, je voudrais dire que la situation est celle qui a été décrite. Les bénéfices de l'énergie ont été évoqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, il y a un bouleversement tout à fait extraordinaire en matière d'électrification rurale, hors réseau en Afrique. C'est devenu un terrain d'expérimentation tout à fait impressionnant. Et on est beaucoup à être convaincus. On vient de terminer un gros travail sur l'ensemble du continent, d'examen des dynamiques en cours. On est convaincu qu'il y a des solutions qui sont trouvées en Afrique qui reviendront tout bénéfice pour l'Europe.
Merci beaucoup Pierre Jacquemot, merci beaucoup Pascal Canfin, Falwin Sarr, merci beaucoup Esther Duflo. Moi je retiens quand même globalement, l'heure est plutôt à l'optimisme, non ?
Toujours.
Toujours. Merci à tous. Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et merci tout particulièrement à nos amis de France Bleu Loire-Océan qui nous ont permis ce soir de dialoguer à distance.